On retrouve nos deux invités, Arnaud Robert et Frédéric Clos, et cette série d'ouvrages dont les deux premiers viennent de sortir aux éditions Art et Fiction, Hors Bord, l'heptalogie terminale. Je dois déjà dire que la couverture est très 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 bien faite, elle donne envie vraiment d'ouvrir le livre. On a parlé du début du projet, donc à Cotonou en 2007, avec, si mes informations sont bonnes, un choix du titre qui s'est imposé très rapidement. Hors Bord, on est quoi? On est aux frontières des genres, Frédéric Clos?
Ben déjà, je vous parlais de cette pizzeria Hors Bord, le mot il arrivait là, hein. C'est-à-dire que cette zone franche. En plus, moi j'ai toujours cultivé l'aspect dans mon travail des réserves, des lieux clos, des lieux qui appartiennent qu'à une spécificité. Pour moi, ça tombe bien. C'est du matériel contemporain que j'utilise assez régulièrement. Donc, et puis à travers les écrits d'Arnaud aussi, on retrouvait les mêmes soucis pour ces mondes orboriens, quoi. Mais évidemment, c'est un terme qu'on a inventé, mais qui correspond, qui claque un peu comme un mot anglais qui vous lance sur plein de pistes. Donc, ça partait bien pour cette histoire.
C'est vrai que ce mot, c'est devenu presque dans nos travaux respectifs une marque de fabrique. Aujourd'hui, quand on voit quelque chose, quand je reviens de voyage, quand Frédéric revient de Lisbonne, d'où il habite une partie de l'année, il revient avec des visions orboriennes. Et ce sont des visions finalement qui disent, effectivement, ces marges des villes, ces mondes intermédiaires, les mondes qui ne sont pas localisés. On ne sait pas exactement où l'on se trouve. On est dans la marge, mais aussi on joue sur cette question et cette interrogation entre le centre et la périphérie. Où est le centre, où est la périphérie? Quand on voyage dans le monde aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est souvent dans ce qu'on appelle les périphéries que se passent les vrais événements culturels.
Alors il y a une particularité dans cette collaboration. D'abord une admiration réciproque de vos œuvres respectives, et puis également probablement le sentiment d'exprimer les mêmes idées dans vos travaux. Est-ce que vous diriez que vous partagez une vision du monde qui est commune? Ça, c'est une des raisons de votre collaboration.
Je sais pas si c'est une vision ou si on a quelque chose à dire, je sais pas, politiquement parlant, sur le monde, mais en tout cas c'est un matériau qui nous sert à faire nos créations. Moi, je le vois plutôt comme un matériau, plutôt comme une idéologie ou une volonté de dénoncer quoi que ce soit. Mais ça fait partie, en tout cas, ça fait partie de mes tiroirs à matos que j'utilise pour ensuite faire des œuvres ou des dessins.
Moi, j'ai toujours trouvé fascinant Frédéric Clos, depuis 15 ans que je vois son travail, à quel point, malgré le médium, il a beaucoup travaillé, il continue de travailler beaucoup sur l'huile, dans un atelier, avec des toiles, toutes ces formes qui sont pratiquement des formes antiques, et en même temps être complètement ouvert, questionné par la matière du monde d'aujourd'hui. Et donc c'est ça qui nous intéressait, c'était effectivement de parler du temps présent.
Et vous l'avez fait justement en parallèle, parce que souvent des livres, il y a beaucoup de livres illustrés qui paraissent avec un texte qu'on fournit ou bien qu'on livre à l'illustrateur, qui va lire le texte, qui ensuite va l'illustrer selon ses propres envies. Et là, c'est pas du tout le cas, hein. Donc vous l'avez fait en parallèle, c'est ça?
C'est-à-dire que bon, au départ, il y avait surtout pas l'envie de soit qu'Arnaud illustre avec des phrases mes dessins ou l'inverse. Donc c'est vraiment parti. En tout cas pour moi, c'était la poétique des mots, la poétique des titres chaque fois qu'on s'envoyait par mail. Ça s'est construit que par mail, au fait. On n'a jamais conçu.
Il n'y a pas des séances
Il n'y a pas eu de séance. Et je dirais que le guide principal, c'est les titres. Et ensuite, un titre me faisait faire quelques dessins que je lui envoyais. Ça pouvait se passer comme ça pour l'application. Et plutôt les dimanches, je dirais. Et tout d'un coup, pour l'application, il me disait, alors là, je suis en train de créer un critique d'art improbable. Il s'appelle Bernstein Creuset. Alors là, évidemment, moi, je pouvais le figurer, mais comme on peut figurer, je sais pas, un Christ en croix ou Mao, ou je sais pas, c'était dans ce sens-là. Mais ce qui était intéressant, c'était ensuite à la fin voir ce que chaque mot pour nous avait évoqué et dans quel chemin ça nous lançait. Et c'était un jet, quoi, et puis voir ce que ça sort. C'était assez expérimental.
Alors, vous avez cité l'application Elle est dimanche, c'est donc les titres de ces deux premiers volumes de la série Hors-Bord. Arnaud Robert, on va vous demander peut-être de nous décrire en quelques phrases, parce qu'on part vraiment d'un univers à un autre, hein, justement, d'un volume à un autre. Il y a une toile de fond commune à tous ces récits.
C'est difficile à dire. On se posait cette question, justement, hier. Qu'est-ce qui fait la substance de ces sept ouvrages?
Qui sont des œuvres de fiction.
Oui, ce sont des nouvelles avec des images qui travaillent justement sur cette matière littéraire qui la stimule et parfois la brûle aussi. C'est ça que je trouvais intéressant dans ces livres, c'est qu'on a un rapport parfois de tension et de friction entre les textes et les images. Ce qui fait la substance, c'est nos univers communs. Et c'est vrai qu'il y a des lignes de force qui traversent les récits. Je crois qu'il y a des lignes de force qui traversent aussi les images. Difficile à dire, on vous a parlé de ces villes, on vous a parlé de ces mondes, de ce remix des cultures, parce qu'effectivement, ce qui nous unit aussi, c'est l'amour de la musique, et notamment l'amour des musiques jamaïcaines, dont on parlera tout à l'heure, ou du rap, ou des musiques noires américaines, des musiques très urbaines.
Mmh. Alors justement, Arnaud Robert, dans le premier volume que j'ai lu, il n'y a pas tellement de citations de musique, mais on sent vraiment qu'on baigne sur une toile de fond en fait culturelle. La musique vous a un peu habité dans l'écriture.
Vous voyez, il n'y a pas de citation de musique explicite.
Comme quelques exceptions, disons.
Comme il n'y a pas de citation de lieu explicite ou d'époque explicite. Même si on est dans un futur probable, dans le premier texte, on ne s'intéresse pas à désigner des lieux, à cadrer des époques ou même à faire des références explicites à des temporalités.
Mmh. Alors justement, on va parler de ce premier volume, l'application. Je vous propose qu'on écoute un extrait. D'abord, on va poser le tableau. Donc, vous racontez, en fait, c'est un roman de science-fiction, on peut le dire, en tout cas d'anticipation, une sorte d'utopie artistique que vous dessinez, Arnaud Robert. Et ça raconte donc le parcours fulgurant d'un artiste chinois plénipotentiaire, qui finit par construire des musées à son nom, des villes à son nom, qui a une fin assez terrible qu'on ne va pas déflorer ici. Je vous propose un petit extrait que Claire Burgui va avoir la gentillesse de nous lire. On vous écoute.
Dès sa première exposition, inaugurée conjointement par le secrétaire général du parti et par le conservateur du musée Guggenheim de Manhattan, Yang avait atteint la célébrité. La une du magazine Time, il posait le visage masqué par ses tresses rasta. Le congrès de Porto Alegre, où se tenaient désormais les rencontres du G8, en parallèle au débat sur la mondialisation, avait offert à Yang une tribune dont aucun artiste jusqu'ici n'avait bénéficié. « L'Occident tue, l'Occident doit mourir », avait-il hurlé devant l'Assemblée conquise. Les responsables de communautés agricoles, les activistes politiques, les people concernés, Oussama Ben Laden, depuis sa prison texane, et les présidents du Sud, avaient pour la plupart pris position en faveur du message de Yang. Le Dalai Lama et Nelson Mandela, que les médias surnommaient les centenaires de la paix, avaient acquiescé publiquement. Et Yang, sur les étals de l'altermondialisation, signait des Nike qui se retrouvaient aussitôt en vente sur eBay.
Merci beaucoup Claire Burgui. Arnaud Robert, on voit bien là la jubilation de l'écriture que vous avez dû ressentir au moment où vous décrivez Oussama Ben Laden dans sa prison texane, le G8 à Porto Alegre. Alors j'essaie de me construire un petit peu le concrètement ce que ça donnerait, mais on serait en fait dans un monde où le G8 serait à Porto Alegre d'une part, mais où toutes les expositions d'art contemporain seraient subventionnées par des marques de chaussures et Nike revient tout le temps. C'est un drôle de tableau là.
C'est là qu'on voit que c'est pas tellement un roman une nouvelle ou une histoire d'anticipation, parce qu'on est là déjà, on y est presque. Les grandes marques évidemment sponsorisent déjà des grandes expositions. L'altermondialisation s'est dissoute dans le projet néolibéral. C'est le monde d'aujourd'hui que l'on décrit, et c'est vrai que il y a cette facilité finalement de le déplacer dans 50 ans, dans 60 ans, pour s'amuser de la disproportion du projet de cet artiste Yang, qui crée des villes et qui deviennent des lieux totalitaires finalement. C'est un jeu d'Uchronie. On réécrit l'histoire, presque l'histoire passée, autant qu'on propose des images d'avenir.
Mais Yang est chinois, excusez-moi de vous interrompre, Yang est chinois, son complice Timothée est africain, ça c'est pas un hasard quand même, que vous ayez choisi un chinois, un africain.
Non mais c'est presque des clichés. C'est-à-dire, aujourd'hui, on imagine bien que dans 50 ans ou 60 ans, ce ne seront pas forcément les Chinois qui seront à l'avant-garde de la peinture ou de l'art contemporain. Et puis aujourd'hui, le rôle des Africains est sans cesse questionné dans l'art contemporain. Ce sont des clichés d'aujourd'hui, finalement.
Oui, une sorte de perpétuation des mythes. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire, quand on reprend des personnages qui existent actuellement, qu'on les replace, c'est la commémoration systématique des catastrophes passées, mais on voit pas celles de maintenant. C'est plutôt un voyage à travers le temps, plutôt comme un truc élastique qu'on répète, cyclique. C'est pour ça que peut-être qu'on a l'impression que c'est une science-fiction. Mais au fond, c'est quelque chose qui nous regarde de très près. Il y a qu'à penser simplement à Abu Dhabi, les marques, les musées deviennent des marques aussi, elles s'exportent de cette manière. Donc c'est pas très loin de ce qu'on vit.